ラジオオカピオカピ
オカピservice, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Capi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Au
Capi. Pour une raison ou une autre, une entreprise peut licencier ses travailleurs, mettre à la porte les travailleurs. Généralement, cette situation arrive lorsque l'entreprise, la société qu'on est butée à un certain nombre de difficultés financières ou elle est tombée carrément en faillite. Alors, quelle est la procédure à suivre pour un licenciement collectif des travailleurs? Comment cela doit se passer? Dans quelles conditions? Quels sont les droits des travailleurs qui sont licenciés de manière collective? Eh bien, vous avez déjà été victime de cette situation ou bien vous avez des témoignages par rapport à cela, n'hésitez pas, le standard est déjà ouvert. Appelez au 081 890 63 94. Monsieur Yvon est notre invité aujourd'hui, Monsieur Yvon Kalinga, il est spécialiste en psychologie de travail. Monsieur Yvon, dites-nous d'abord quelles sont les raisons qui peuvent, les autres raisons qui peuvent pousser une entreprise à mettre à la porte, à licencier de manière collective ses travailleurs.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tel que vous le disiez tantôt ici, lorsqu'une entreprise connaît par exemple une faillite, une entreprise n'arrive plus à générer des bénéfices, et des bénéfices qui peuvent permettre à ce qu'elle paye ses travailleurs, c'est que cette entreprise se trouve en droit de procéder comme cela. Mais au préalable, il faudra retenir que le licenciement massif est proscrit, est prohibé en République démocratique du Congo. Et là, je vous renvoie pratiquement au Code du travail. Donc, pour procéder à un licenciement massif, il faudra au préalable que l'entreprise obtienne une dérogation de la part du ministre qui a l'emploi ou le travail dans ses prérogatives. Donc, ce sont les quelques raisons qui font à ce que une entreprise arrive à procéder à un licenciement massif de ses propres travailleurs. Mais déjà, au préalable, il faudra reconnaître que le licenciement massif n'est pas permis en République démocratique du Congo de par la loi.
Bien, le licenciement massif n'est pas autorisé en République démocratique du Congo. Si l'entreprise doit le faire, elle doit obtenir une autorisation spéciale du ministre du Travail, voilà, et prévoyance sociale. Alors, quand on parle de licenciement collectif, c'est généralement à partir de combien, quel nombre de personnes?
Oui, déjà, quand il y en a déjà 10, on parle déjà d'un licenciement massif. Parce que ça fait 10 familles déjà que vous mettez sur la rue. Mais généralement, ça se discute autour de 30, donc au-delà déjà de 30. Mais à partir de 10 déjà, c'est un fait constaté.
Alors, si l'entreprise a obtenu l'autorisation du ministre du Travail, maintenant, quelle est la procédure à suivre pour licencier ces travailleurs?
Oui, d'accord. Et cette dérogation est conditionnée par un fait. Et le fait, c'est que quand l'entreprise se retrouve devant une faillite ou une raison qui motive réellement de procéder à un licenciement massif, c'est que l'entreprise met les conditions, c'est-à-dire fixe les conditions de départ de ses travailleurs, et ces conditions doivent être discutées avec le banc syndical, c'est-à-dire la représentation syndicale au sein de l'entreprise. Et à l'issue de cette discussion, lorsque le devant, le banc employeur et le banc syndical se mettent d'accord sur le mécanisme de départ de ces travailleurs, un PV est dressé à l'issue de ces négociations-là. Et c'est ce PV-là qui va servir de guide pour que le ministre arrive à autoriser, à accorder une dérogation pour qu'on procède à un licenciement massif. Et lorsqu'on arrive à cela, donc, une fois que les conditions ont été discutées et déterminées et fixées de commun accord entre le banc employeur et le banc syndical, c'est que dans ces conditions-là, le ministre peut autoriser à ce qu'il y ait un licenciement massif.
Voilà, donc au préalable, avant que le ministre n'autorise, il faut qu'il y ait des discussions entre la partie, entre l'employeur et la délégation syndicale. Et fixer les conditions de départ. Généralement, quelles sont ces conditions de départ?
Oui, et les conditions de départ, donc le premier document avec lequel nous nous servons, c'est d'abord le Code du travail. Le Code du travail fixe les conditions de départ, c'est souvent en termes d'ancienneté. On vous dira par exemple ceux qui ont déjà fait 5 ans, quel est leur préavis, ceux qui ont déjà fait 10 ans, quel est leur préavis, ceux qui ont fait 15 ans, quel est leur préavis. Alors, tout se discute en termes de préavis et en termes aussi de disponibilité de fonds dont l'entreprise aura mis en place pour pouvoir faire partir ses agents.
Mmh. Donc on discute par rapport à l'ancienneté et disons que les décomptes finaux seront versés en fonction de cet élément.
Oui, en fonction de l'ancienneté et en fonction de la catégorie. Parce que déjà, les salaires se différencient en termes d'ancienneté, en termes de catégorie.
Oui, quand vous parlez des catégories, vous faites allusion à quoi?
Oui, de manière tout à fait générale, on parle du personnel personnel de cadre et du personnel d'exécution. Et entre les deux, il y a toujours des types de différenciation. Par exemple, pour le personnel d'exécution, c'est que la loi prévoit, je crois que c'est ventilé entre trois catégories. Il y a les manœuvres, il y a les semi-qualifiés, il y a les qualifiés et les hautement qualifiés. Et alors que le personnel de cadre, là-dedans, il y a la maîtrise, il y a les cadres et le personnel de commandement, ou ce qu'on appelle les directeurs.
Voilà, donc il faut tenir compte de toutes ces catégories pour fixer les deux comptes finaux. Mais est-ce que généralement, cela se passe ainsi quand il y a des cas de licenciement collectif?
Vous dites?
Oui, je dis, est-ce que généralement, on respecte toutes ces conditions en cas de licenciement massif des travailleurs dans nos sociétés?
Disons, ça c'est le préalable. Maintenant, tout dépendra de la manière dont les syndicalistes auront négocié ce départ-là. Mais il se fait malheureusement qu'il y a certains syndicalistes véreux qui préfèrent se faire payer à côté et négocier de mauvaises conditions de départ des travailleurs.
Voilà. Et si les travailleurs constatent, par exemple, que les syndicalistes sont corrompus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce moment-là pour partir et recevoir leurs droits?
Oui, et recevoir le droit, bon, il y a un mécanisme, c'est que les syndicats peuvent facilement faire un recours, par exemple, de dire que les conditions ont été mal négociées. Et ce recours est envoyé à l'inspecteur du ressort ou directement au ministre qui a autorisé. Et après analyse, il se dégage que les travailleurs ont bel et bien raison. Bon, je crois que ça peut encore renvoyer le deux bancs, le banc employeur et le banc syndical, à des négociations. Mais le comble, c'est que souvent, en République démocratique du Congo, les travailleurs ne connaissant pas ces mécanismes-là, et il est victime de la situation. C'est que les deux bancs, le banc employeur et le banc syndical, aura décidé, bon, et ils prennent acte et partent carrément.
Ouais, est-ce qu'il y a possibilité de recourir à l'arbitrage d'un inspecteur de travail?
C'est-à-dire, pendant que le banc syndical et le banc employeur discutent, l'inspection du travail est présente parce que l'inspection, c'est elle qui va valider les CV qui aura été signé par le banc employeur et le banc syndical avant que cela ne serve à l'employeur, comme ils disent, pour pouvoir obtenir une dérogation auprès du ministre.
Voilà, donc l'inspecteur est toujours présent. Alors, les travailleurs, oui, voilà, il est présent, il y a les discussions s'enchaînent et après, cela est sanctionné par un PV. Alors, quels sont, disons, à part, qu'est-ce que les travailleurs doivent recevoir, disons, un cadre, par exemple, des directions, il peut recevoir quel montant, et puis, c'est lui qui fait partie d'un cadre d'exécution, quelle est, disons, la fourchette, hein, qu'il peut recevoir, le montant qu'il peut recevoir comme indemnité?
Vous me posez là une question très plus difficile, hein, parce que en termes de salaire en République démocratique du Congo, il y a une très grande disparité. Une très grande disparité. Un cadre, quand vous prenez un cadre, par exemple, de la fonction publique, Il n'a presque pas grand chose par rapport à un cadre d'une entreprise X privée ou d'une autre entreprise. C'est pourquoi je vous ai dit que déjà, le barème qui est attribué à chaque grade, c'est ce barème-là qui sera pris en considération dans les calculs du décompte final. Habituellement, on prend les SMIG, hein, les salaires moyens pour professionnels garantis. C'est sur base de ça que cela est calculé.
Bien. Quelle est la procédure à suivre pour un licenciement collectif des travailleurs? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Yvon Kalinga, spécialiste en psychologie des travail. Deux invités déjà en ligne, Sonville Mukendi, nous appelle de Lumbashi, et Joseph Pungu et Takindu. Vous voulez également participer? Composez le 081-890-63-94.
Merci pour l'occasion que vous m'offrez. Je voudrais donc présenter mes meilleurs voeux de bonheur, de prospérité, de fraternité, de joie à toute la population congolaise et spécialement à tous les amis qui me connaissent et avec qui nous sommes en bon terme et que je fréquente souvent. Donc mes meilleurs voeux pour cette année qui commence. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël. Voilà. Je suis le professeur Lema Koussa de l'Académie Beaux-Arts. Je suis communicateur visuel et artiste peintre. Voilà.
Quelle est la procédure à suivre pour un licenciement collectif des travailleurs? Sonville Mukendi, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Oui, c'est Maître Sonville à Lumbashi.
Oui, on vous
bonjour,
écoute.
C'est Maître Sonville à Lumbashi.
D'accord, quelle est votre préoccupation?
Maître Sonville Mukendi.
Oui, maître, quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est celle-ci. D'abord, je fais mienne toutes les explications faites par notre confrère que vous avez invité. Mais néanmoins, il y a des préalables, comme il l'a dit. Est-ce que ces préalables-là, sont d'application? C'est là où nous posons les problèmes. Puisque vous avez eu à poser une question pertinente. Comment est-ce qu'on procède à ce renvoi-là des gens en licenciement massif? Effectivement, il faut qu'il y ait l'aval du ministre du Travail et Prévention sociale. Et il y a une tripartite qui s'organise autour de l'employeur, syndicat, inspecteur du travail. Mais est-ce qu'il faut encore compter sur les syndicalistes? Parce que dans la plupart des cas, des sociétés qui connaissent des cas pareils, ce sont toujours les travailleurs qui sortent perdants, puisque la société ne parvient pas à remplir toutes les conditions requises pour envoyer ce travail-là en licenciement massif. Et deux fois, ici, en République démocratique du Congo, ce licenciement massif est transformé en congé technique. Parce qu'au moment où l'entreprise se retrouve en faillite, au lieu de payer le droit aux travailleurs, ils transforment ça en congé technique pour s'accaparer des droits des travailleurs. Et on n'a jamais eu une réplique de la part du ministre du Travail, ou est-ce encore de respecter le travail qui assiste à cette tripartite.
Oui, maître Sonville. Donc quand l'entreprise transforme les licenciements en congé technique, ça veut dire qu'on ne donnera rien aux travailleurs?
On ne donnera rien aux travailleurs, il faut qu'ils attendent. Il dit non, congé technique pour 6 mois, 3 mois, mais les travailleurs attendent et ça devient des prolongations. Il n'y a aucune intervention du ministre du Travail et de Prévention sociale, moins encore de l'inspecteur. C'est-à-dire que les travailleurs sont voués à leur... sont abandonnés à leur triste sort. C'est un peu ça. Au-delà de ça, je peux même vous donner certains exemples.
Oui.
Lorsque dans une entreprise, les travailleurs mettent au moins 208 mois d'impayement, sans aucune intervention du gouvernement. Et c'est 208 mois d'impayement. C'est plus que même les licenciements massifs. Et la société, c'est la Soudinico. Elle vient de totaliser 208 mois d'impayement. Pas de réaction pour l'inspecteur du travail, pas de réaction pour les syndicalistes. Les syndicalistes se font corrompus à tout moment. C'est pourquoi je pose la question, est-ce qu'il faut encore compter sur les syndicalistes ici au Congo? Puisque les syndicalistes ne voient que leurs intérêts. Dès que l'employeur leur propose quelque chose, il s'incline au préjudice des travailleurs. Alors moi je dirais qu'il faudrait qu'il y ait un œil regardant par rapport au ministre, même avant de donner l'aval du licenciement massif, qu'il interpelle, qu'il voit un peu le PV et qu'il interpelle même l'employeur. Mais à ce niveau-là, le ministre a toujours été représenté par l'inspecteur du travail. Cela, ça remet en doute la franchise de l'inspecteur du travail. Oui, monsieur le journaliste.
Bien, merci maître Sonville Mukendi de Lumbashi. Joseph Pungu, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les amis du monde.
On vous écoute.
Moi, j'ai quelques préoccupations à demander à notre invité.
Oui.
Il me donne d'abord la différence qui existe entre les licenciements et les congés techniques. Parce que ici chez nous, on avait vraiment vécu un certain cas comme ça. Moi, je suis travailleur à l'économie générale du diocèse de Kindu. Il y avait des travailleurs qui travaillaient dans une bricolerie du diocèse. À un certain moment, l'économe général avait pris la décision de licencier ses travailleurs parce que on voit que la bricolerie ne produisait même pas. Alors, il a fallu aller voir le ministre des Provinces sociales pour faire licencier ses travailleurs. Après un certain moment, ces travailleurs sont partis. On a payé quelque chose qui n'était pas maintenant valable. Ils sont partis. Après, on a engagé d'autres travailleurs. Est-ce que ces gens-là qui se sont licenciés, est-ce qu'ils ont droit d'acquiser l'entreprise ou pas? Deuxième préoccupation que je voulais demander à notre invité. Troisièmement, ici chez nous, on nous exige, on commence à nous dire que non, en tout cas, vous serez licenciés. Parce qu'on voit que l'entreprise n'arrive pas vraiment à avoir les moyens pour payer les travailleurs. Alors, ce n'est pas notre faute. Parce qu'on est obligé, on commence à nous dire que non, vous ne produisez pas. Nous sommes là comme les travailleurs. On a besoin de travail. Et notre patron n'arrive pas à nous fournir les matériels pour produire. C'est à nous la faute, ou soit c'est à nous de chercher les matériels pour produire, pour que l'entreprise ait vraiment les moyens pour nous payer. Alors, on ne sait pas notre faute. Parce qu'on nous a planifié à nous donner par chacun 2 mois de congé, sans pour autant être payé. Il a fallu aller en congé. À ton retour, on va vous payer. C'est logique dans la loi, ou soit ça s'écrit dans le code du travail. Ce que j'aimerais maintenant avoir une belle réponse, comme c'est la journée de Noël, notre héros, notre sauveur, j'espère que l'invité va nous sauver si c'est le cas.
Vous espérez que l'invité va vous sauver par rapport à ce cas. Merci Joseph Fungu de Kindu. Maître Gaston Gandou, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, merci pour la parole.
On vous écoute maître.
Bon, j'allais juste dire que vous avez bien introduit pour dire que s'il y a un licenciement massif, quelle est la procédure à suivre. Je pense s'il y a les gens crient sur le mauvais fonctionnement ou sur le comportement des gens qui vont à l'encontre de ce qui est prévu, il serait bon d'aller les faire devant les organes habilités. Ce serait une bonne chose au lieu. Parce que vous aviez demandé la procédure, il peut arriver que les gens se retrouvent dans des situations pareilles et veulent avoir une idée comment procéder. C'est ici qu'ils doivent trouver des explications en tant qu'une émission pédagogique. Moi, je pense que tout commence par, c'est possible qu'une entreprise puisse se décider, prendre ses décisions dans ce sens-là, parce que n'ayant plus les moyens pour subvenir à ses besoins, décide de la licencier plus de deux de ces travailleurs, ça peut arriver, mais tout commence par la décision de cet employeur qui doit être motivé, et puis l'inspecteur du travail territorialement compétent doit donner son aval. Et la dernière décision, c'est le ministère du Travail qui doit décider dans le cas d'espèce. Si c'est approuvé, on peut procéder à un licenciement massif. On doit délivrer normalement les certificats de fin de service. Et j'allais dire aussi qu'il y a toute la procédure concernant les licenciements individuels est maintenue en ce qui concerne le licenciement massif, sauf, donc il doit y avoir les préavis, tous les droits y afférents, les choses comme ça. Sauf que là, dans les cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une faute lourde qu'on peut imputer à un travailleur.
Non, ici, on parle de licenciement massif, parce que l'entreprise n'a plus de moyens pour tourner.
Plus de moyens, il peut y arriver qu'il y ait un cas de force majeure aussi. Elle n'est pas tenue, elle n'est pas tenue, elle peut se décider de licencier, mais la procédure, il doit y avoir un préavis, parce que j'ai fait allusion à un licenciement individuel, là, s'il s'agit d'une faute lourde, on n'est pas obligé de donner le préavis, mais aussi les droits y afférents, tous les droits là doivent être, si ça n'arrive pas souvent comme ça, il faut maintenant que ces gens-là qui sont victimes de ce qu'on puisse, exercer leurs droits. Mais si ça arrivait que les autorités habilitées à les rendre justice sont aussi corrompues comme on le voit, et il faut accepter, c'est la loi du plus fort, c'est bien. Comme ça que marche notre pays.
D'accord, merci. Pour calmer, merci.
Attendre la justice dédiée, vous voyez pas.
Merci Maître Gaston, nous avons en ligne Issiaka à Kinshasa, bonjour Issiaka.
Oui, bonjour monsieur journaliste. Je suis monsieur Charles de Kinshasa, mais actuellement je suis à Kikwit.
Vous êtes à Kikwit, hein? Quelle est votre question?
Oui. OK, je suis victime de d'un licenciement massif.
OK, depuis quand?
C'est depuis le 14 octobre, c'est récent.
C'est récent. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui,
c'était ça fait le nouveau product, c'est excessif fort. Hein.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Oui, ce qui s'est passé, c'est que l'employeur a réuni les délégués pour la délégation pour dire qu'il avait été en difficulté. Pourtant, il n'est pas en difficulté. Vous pouvez descendre, vous verrez, vous trouverez que c'est une société qui progresse. Aucune raison. Les raisons sont ailleurs. C'est un règlement de compte. Et la procédure telle qu'il est prévue dans le code du travail n'a pas été respectée. Alors, moi, le problème que je voulais poser, si je ne voudrais pas entrer beaucoup dans les détails, c'est un peu long.
Mmh.
Oui, simplement, je voudrais d'abord, dans un premier temps, que vous puissiez associer, à côté du psychologue, vous devriez associer un spécialiste en matière du travail, un juriste, mais qui s'est spécialisé en matière du travail. C'est très important. Parce qu'il y a des aspects juridiques qui peuvent échapper à votre invité. Ça, c'est de un, de deux. Votre invité n'a pas insisté. Il a parlé un peu du ministre, il n'a pas insisté sur l'aspect ministre. Le ministre, avant de signer cette dérogation ou ces dérogations, parce que dans le code du travail, il a parlé de dérogation au pluriel. Il est obligé de mener des enquêtes dans cette société pour se rendre compte effectivement qu'il y a ce que l'employeur a évoqué. Exactement ce qui est exactement la réalité. Vous comprenez? Parce que on peut tromper le ministre, c'est notre cas ici. On peut tromper le ministre. On a élaboré une liste de 1300 travailleurs pour demander le licenciement de 300 travailleurs. Et pourtant, les travailleurs étaient à 420, je pense, oui, 420. Et le ministre a autorisé ce qu'on licencie 300. Et pourtant, la société n'a aucun problème économique.
Et donc, comment vous êtes, monsieur Issiaka,
investit à plus de 2,5 millions d'euros.
Monsieur Issiaka, ouais, vous dites que la société n'a que 300 travailleurs et ils ont trompé, la société a trompé le ministre en disant qu'elle avait 1000 travailleurs.
Oui, mais plus de 1000.
Plus de 1000.
Il y a ajouté même des journaliers, oui, il y a ajouté, et pourtant les effectifs, c'était des 423 travailleurs.
Et on a fait partir 300, il reste une centaine.
L'autorisation du ministre était de 300 licenciements. Pour une société qui n'a aucun problème. Aucun, alors je lance le défi à quiconque qui est en train de me suivre de nouveau, de prouver le contraire de ce que j'ai dit.
Et tout ça,
il n'a fait aucun effort pour vérifier toutes ces informations. Pour laquelle on exige au ministre de mener des enquêtes au préalable avant de donner de signer la dérogation.
Alors, Issiaka,
se rendre compte.
Issiaka, est-ce que vous avez reçu les décomptes finaux, vos décomptes finaux?
Pardon? Oui, j'ai reçu les décomptes, mais oui, je suis d'abord en amont des décomptes.
D'accord.
Je suis d'abord en amont des décomptes. Une société qui emploie, au moment où je vous parle, plusieurs expatriés, au détriment des Congolais, mais la raison était économique. Et le ministre, sans vérifier, sans mener des enquêtes,
d'accord,
il a signé le fait de dérogation.
Merci.
Là, je voudrais justement insister autour de cette dérogation.
D'accord, on a compris. Merci beaucoup. Monsieur Yvon Kalenga, vous avez suivi ces différentes préoccupations des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, le tout premier parlait de la différence entre congé technique et licenciement massif. Disons, aujourd'hui il était question de dire la procédure sur le licenciement massif, mais ça n'empêche pas à ce que je m'exprime sur le congé technique. Habituellement, il peut se faire que l'entreprise ne rencontre pas des difficultés en termes financiers, mais peut rencontrer par exemple des difficultés en termes de rendement de l'équipement qu'il possède. Il peut se faire que l'équipement qu'il a est un équipement qui donne un rendement moindre que le rendement attendu. et l'entreprise peut procéder à un congé technique, le temps qu'il renouvelle son équipement. Mais ceux-là qui partent en congé technique, ils ne perdent pas tous les avantages, ils peuvent bénéficier d'une espèce de salaire d'attente, de soins médicaux, en attendant qu'on renouvelle l'équipement et qu'ils reviennent pour reprendre le travail. Mais les habitudes sont telles que ici, pour procéder au licenciement massif, on trouve d'abord une voie de sortie, une voie cachée, qui est le congé technique, et puis par la suite, on décidera de résilier le contrat par la suite. Sur sa deuxième question, qui rejoint pratiquement la première question, il dit qu'il est en train de travailler. Bon, à un moment là, on décide à ce qu'il arrête le travail. Ils sont partis en congé et puis finalement, on a décidé. Moi, la question que je voudrais peut-être lui poser, c'est la même que vous venez de poser à l'intervenant, au tout dernier intervenant. A-t-il reçu son décompte final? S'il a reçu son décompte final, donc ce décompte final est le résultat des négociations des syndicalistes qui étaient présents avec en concurrence avec l'employeur. Donc s'il a reçu son décompte final, c'est que, je dirais, il a cautionné déjà son départ. Parce que le recevoir, c'est autant accepter que les conditions qui ont été négociées ont été les bonnes conditions. Et les habitudes dans ces pays sont telles que quand on a négocié et qu'il y a un décompte final, vous verrez, de par le commun du Congolais, il va d'abord récupérer son décompte final pour commencer la démarche après. Moi, je crois que la meilleure démarche serait de refuser de prendre cet argent et de relancer pratiquement une voie de recours pour essayer de discuter de bonnes conditions. Parce qu'une fois que vous avez reçu cet argent, donc vous acceptez que les conditions étaient mieux négociées et que vous pouvez facilement partir. Quant à l'autre intervenant, j'agrège qu'ils disent qu'il faut associer un spécialiste du travail qui est l'homme de droit. Je ne vais pas refuser, mais ça ne diminue en rien l'intervention que je porte ou l'information que je porte à leur connaissance. Et le dernier intervenant, bon, je crois qu'il a reçu son décompte final. C'est qu'il a cautionné son départ. Il avait déjà. Si aujourd'hui doit réaliser que les conditions étaient mal négociées, bon, je crois que l'inspecteur est encore là pour pouvoir relancer la question. Voilà. Mais chaque fois que le ministre prend une décision, je l'ai dit, le ministre prend une décision lorsqu'il reçoit un PV qui a été signé et par le banc employeur, le banc syndical et son opérateur technique qui est l'inspecteur du ressort. Lorsqu'il le reçoit, donc il fait foi, il fait confiance à la signature de son inspecteur. Ça signifie que l'inspecteur a joué le rôle d'arbitre entre les conditions qui auront été décidées. Mais je ne pense pas que le ministre, au-delà de l'avis de l'inspecteur ou de la présence de l'inspecteur, envisagerait envoyer une autre commission qui viendrait faire le travail de l'inspecteur du lieu. Voilà comment moi je pensais répondre à toutes ces questions qui ont été posées.
Oui, monsieur Yvon, parce qu'il a insisté, monsieur Issiaka, il dit parfois le ministre est induit en erreur. Il fait confiance à l'inspecteur, mais ce dernier a été déjà acheté par l'entreprise et puis voilà, il relate pas les faits normalement comme il se doit. D'où il dit que le ministre doit absolument envoyer une commission d'enquête pour se rassurer davantage avant de prendre une quelconque décision.
Oui, c'est vrai ce qu'il dit. Mais figurez-vous qu'un inspecteur, d'abord, l'inspection est d'abord un service indépendant, un service technique. Qu'un inspecteur trouve que le ministre a envoyé une commission et dans cette commission, il n'y a aucun membre de l'inspection. C'est que même si le ministre doit envoyer une équipe, c'est que l'inspecteur du ressort devra à ipso facto être associé à cette commission pour pouvoir procéder à cette enquête-là. C'est qu'on ne va pas l'ignorer, il sera toujours présent. Bon, il se fait malheureusement qu'il y a des inspecteurs qui, par moment, parce que l'État ne payant pas suffisamment, bon, ils se font soudoyer, bon, acceptent n'importe quelle condition. Mais la valeur d'un PV, c'est une valeur attribuée à la tripartite.
C'est-à-dire, on suppose quand il y a un inspecteur, qu'il y a le bon employeur et il y a les bons syndicats, c'est que ça se négocie toujours au profit de travailleurs. Mais peut-être dans la pratique, il y a des choses qui se font, ce que des syndicalistes véreux ou un inspecteur véreux peut se faire soudoyer et que les conditions sont mal négociées et que la victime puisse être l'employeur. Mais là-dessus, si, il faut retenir une chose. Il y a des gens qui pensent que le décompte final viendrait résoudre toutes leurs misères. Parce que quand vous avez déjà un SMIC très bas, dites-vous que vous aurez suffisamment beaucoup d'argent. Alors, il y a des gens qui rêvent, il y a des gens qui préfèrent, comme aujourd'hui les gens préfèrent faire carrière. Ils se disent quand j'ai fait 15 ans, 20 ans, donc je partirai suffisamment avec beaucoup d'argent. Mais il faudra au préalable que le guide dans ces négociations qui est la convention collective puisse déjà avoir négocié des bonnes conditions de départ pour espérer avoir suffisamment beaucoup d'argent.
Bien, nous avons en ligne Benéry, il nous appelle Dema Lembankulu.
Je suis l'artiste Ediki Songele, artiste peintre, enseignant à l'Académie des Beaux-Arts, coordonnateur de l'association RD Congo Terre d'Artistes. En tout cas, voici l'occasion que j'ai saisie pour donner mes vœux les meilleurs à tous les artistes plasticiens de la République démocratique du Congo, en particulier et en général à tous les artistes, ceux qui font l'œuvre de l'esprit, qui créent et puis qui travaillent pour les biens de la création et pour de nos âmes. Et à tous ceux-là qui nous suivent de loin tout comme de près, je voudrais vraiment leur souhaiter nos vœux les meilleurs. Et aussi à tous les partenaires, pourquoi pas, parce que nous avons toujours besoin de ces partenaires pour l'année qui commence, que soit une année de plein succès et que chacun de nous prenne conscience, comme à l'occasion de cette exposition de l'environnement, que chacun de nous prenne conscience de l'environnement. Donc, mes vœux le meilleur à toutes nos familles. Je pense aussi à ma petite famille, à mon épouse Rebecca et Bia Dikisongele. Je pense à mes enfants, Samuel Dikisongele, Koumi, Sinaï Bonard, Avila Dikisongele, tous mes vœux le meilleur.
Nos vœux le meilleur à tous les fidèles auditeurs du magazine Okapi Service. Quelle est la procédure à suivre pour un licenciement collectif des travailleurs? Benéry, vous êtes à Malembankulu. Bonjour.
Bonjour,
Benéry, vous êtes en ligne vous êtes en ligne de Malembankulu. Bonjour. Quelle est votre préoccupation par rapport à ces thèmes sur le licenciement collectif des travailleurs? Voilà, je crois que Monsieur Benéry est un peu distrait. Il est en train de causer. Voilà, nous revenons à notre invité, Yvon Kalinga, spécialiste en psychologie de travail. Alors, Yvon, nous retenons que pour procéder à un licenciement massif des travailleurs, il faut l'avis du ministre. Donc, d'abord, il faut qu'il y ait une négociation tripartite entre la partie employeur, la délégation syndicale et puis l'inspection du travail. Et puis, à la fin, un PV sera dressé, élaboré, et c'est sur base de ces PV que le ministre va décider. C'est cela? Vous confirmez cela?
Oui, je confirme cela.
Et si les travailleurs ne sont pas toujours d'accord avec ce qui a été rédigé, ce qui a été décidé et sanctionné par un PV, quelle voie des recours, hein, comment peuvent-ils, quelle est la voie des recours qui s'offre à eux?
Une voie de recours, c'est qu'ils peuvent, une des choses, c'est qu'une fois que la condition a été décidée, et que, par exemple, on a disponibilisé les fonds, les travailleurs peuvent facilement refuser, par exemple, d'accéder à cet argent pour dire que les conditions n'ont pas été, et relancer la question via l'inspecteur et vers le ministre pour que les conditions soient renégociées.
Mais généralement, les travailleurs se résignent, ils se disent « bon, c'est la loi du plus fort, l'entreprise a beaucoup de moyens, elle peut corrompre à gauche et à droite, et notre voix ne sera jamais entendue, donc vaut mieux laisser tomber. »
Non, il ne faut pas laisser tomber. Je sais que la machine est très lente, l'administration est très lente. Parce que moi, j'ai vu des entreprises ou des personnes qui ont été licenciées qui... après plusieurs recours, le dossier a été même versé au tribunal du travail et que ces gens ont eu gain de cause et que l'entreprise a été obligée de revoir les conditions de départ. C'est que le problème, c'est que la partie employeur, telle que vous le dites, peut toujours jouer sa carte pour prolonger le plus longtemps possible ces discussions, afin de faire perdre aux travailleurs qui réclament ce droit-là, et une fois qu'ils sont fatigués et la machine s'arrête. C'est que je crois que ça demande de la patience, et c'est ça la machine administrative congolaise, ça demande suffisamment de la patience, et souvent beaucoup ne sont pas très patients, ils veulent que la question soit résolue dans les mois qui suivent, et l'entreprise aussi, c'est souvent dans une situation telle qu'elle risque de sortir encore plus d'argent, bon, elle peut toujours jouer avec l'administration pour rallonger le plus longtemps possible pour que vous n'entriez pas. Donc, moi je crois qu'un droit, il faut le défendre. C'est en le défendant qu'il reste réellement un droit. Mais si vous vous résignez, c'est que, bon, ne vous appelez plus victime parce que vous avez accepté ces conditions-là.
D'accord, on va terminer avec la question de Moïse Debounia. Bonjour Moïse.
Bonjour monsieur, bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation, c'est par rapport à votre émission, mais sauf que pour moi, ce n'est, je n'étais pas dans le cas de licenciement collectif, c'est individuel, mais peut-être je peux poser cette question. J'aimerais un peu connaître, puisque je suis victime d'un licenciement abusif, c'est-à-dire j'étais en plein service. Pendant les mois d'août et septembre, j'ai travaillé. L'employeur me dira que non, vous êtes licencié. Alors, je ne connais pas la cause. Alors, je suis allé me plaindre dans l'inspection du travail. On a appelé nos directeurs ou nos chefs. Ils ne sont pas venus répondre. Alors, l'inspecteur du travail me dira qu'il faut que j'aille au niveau du parquet. Alors, je ne sais pas, à ce niveau-là, qu'est-ce que l'invité peut me dire à ce sujet-là, puisque je suis vraiment dans les possibilités, parce qu'il me demande de 56 dollars pour la transmission du dossier au niveau du parquet. Je n'ai pas cet argent-là.
D'accord.
Alors, nos chefs ici, localement, ils ne veulent pas répondre à cette préoccupation. Alors, je vais te demander à l'invité, qu'est-ce qu'il peut me dire par là?
Monsieur Yvon, qu'est-ce que vous pouvez conseiller, quel conseil vous pouvez donner à Moïse?
Oui, il a été licencié. Mais je voudrais quand même revenir d'abord dans la procédure. Ça signifie que lorsque l'employeur constate, par exemple, en cas, par exemple, de faute lourde, il constate, par exemple, que vous avez endommagé un équipement, l'employeur ne prend pas directement la décision de vous licencier. C'est que l'employeur vous invite de vous faire accompagner d'un syndicaliste de votre choix. C'est de la discussion, de l'établissement des faits, lorsque les faits se sont révélés vrais. Et qu'à l'issue de cette tripartite-là, employeur, syndicaliste et travailleur, il se révèle, il se constate réellement qu'il y a eu faute lourde, et dans ce cas-là, le PV sanctionne carrément l'arrêt du travail. Et en cas de faute lourde, il n'y a pas d'indemnité à payer.
Bien, même pour le pour son cas,
on résilie le contrat,
oui.
Et ça s'arrête là-bas. Alors, dans son cas, je ne sais pas, est-ce que il s'est accompagné d'un syndicaliste lors du PV de l'établissement de griefs qui lui ont été reprochés?
Bon, son cas
a été le cas,
oui, monsieur Yvon,
et que le licenciement a été acté.
Monsieur Yvon,
et il retourne à la section. Oui.
Monsieur Yvon, son cas est un peu différent. Il dit qu'il a été licencié et le motif n'a pas été signifié jusqu'à présent. On lui a rien dit. Il veut aller transmettre les dossiers au parquet. Il doit payer 56 dollars, je crois, pour la transmission du dossier. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller dans ce cas? Le motif n'est pas clairement dit.
Lorsque le motif n'est pas clairement établi, c'est qu'il n'y a pas résiliation. Il n'y a pas de résiliation, parce qu'on doit appeler l'agent et notifier à l'agent qu'est-ce qui lui est reproché et telle grief en cours, telle sanction.
Alors qu'est-ce que Moïse doit faire?
Tracté par son syndicat. Ce que je peux lui proposer, c'est quoi? C'est qu'il a été syndiqué dans cette entreprise. Il n'a qu'à rentrer, voir le syndicat, c'est-à-dire le syndicaliste qui est censé le représenter et discuter de la question pour qu'au niveau de l'entreprise, on relance la question pour dire qu'il y a eu vite des procédures.
Alors, au cas où ça ne marchait pas de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait?
L'autre, ça ne marche pas. Bon, le recours maintenant, c'est l'inspection du travail qui doit devoir arbitrer. Parce qu'une fois qu'il y a résiliation, les dossiers transmis à l'inspection du travail. Alors, l'inspection du travail ne doit pas se dédouaner et envoyer l'individu à quoi en justice.
D'accord.
Comme il y a les tribunaux de travail. Donc, si l'inspecteur n'est pas habilité, se trouve incapable de résoudre cette question, il n'a qu'à saisir le tribunal du travail.
Bien, merci Moïse, merci Monsieur Yvon Kalenga, spécialiste en psychologie du travail. Nos meilleurs voeux pour l'année 2016 et à la prochaine.
Merci beaucoup et à la prochaine, à vous autant.
Joyeux Noël.